Je voudrais lire avec vous une prière. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul fait une prière pour ces chrétiens qui vont bien. Les chrétiens d'Éphèse, c'est des chrétiens qui vont assez bien. Dans cet épître de Paul aux Éphésiens, dans cet épître, Paul souhaite quelque chose pour les chrétiens d'Éphèse, donc pour tous les chrétiens. Éphésiens, chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, oui, il y a quelque chose de bien dans cette église. Il y a de la foi, il y a de l'amour, de la foi dont c'est par rapport à Dieu également, de l'amour pour les chrétiens. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, la connaissance de lui, bien sûr. Alors après, il y a toutes les conséquences de cette révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, etc. Je pense que ces promesses sont tellement grandes que beaucoup de chrétiens croient que ce n'est pas possible. Un peu plus loin, on reviendra sur la deuxième prière au chapitre 3, mais on va d'abord aller dans l'épître aux Philippiens. L'apôtre Paul est un homme très instruit. Il a étudié au pied de Gamaliel. C'est un pharisien, c'est un homme qui peut faire des discours persuasifs. C'est un homme qui a beaucoup reçu humainement. Et regardez ce qu'il dit. Et Philippiens, chapitre 1er, chapitre 3. Au chapitre 3, regardez ce qu'il dit, au verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église. Ça, c'était avant sa conversion, bien sûr. Irréprochable. C'est quand même. C'est pas tout le monde qui pourrait se lever et dire je suis irréprochable. À l'égard de la justice et de la loi. Regardez bien le cœur de cet homme. Mais ces choses, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Je relis cette partie. J'ai renoncé à tout. Je regarde ces choses comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ. Est-ce qu'il le connaissait, Paul, Christ ? Ben oui, mais il veut le connaître davantage. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Amen. Voilà un témoignage de cet homme qui respirait le meurtre, qui respirait la menace, qui a persécuté l'Église et qui, parce que il a reçu une révélation, une première, comme disait Jérôme l'autre jour. Il a reçu, lui, tout mauvais qu'il était, il a commencé à recevoir une première révélation à tel point que quand il a rencontré Jésus pour la première fois, plutôt quand Jésus l'a rencontré pour la première fois, il lui a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Je pense, sans exagérer, que beaucoup de chrétiens, je parle de chrétiens, devraient presque aujourd'hui poser la même question pour recommencer, mais qui es-tu, Seigneur ? Quand on voit la façon dont ils traitent Dieu, dont ils lisent la Bible, la façon dont ils s'approchent de Dieu, laissez-moi vous dire que certains sont certainement très près de dire, Seigneur, mais qui es-tu vraiment ? Malgré le fait que l'intellect ait capté certaines choses. Alors c'est vrai que la révélation, elle est progressive. Vous voyez, Paul dit, mais je connaîtrai Christ. Il le connaissait, et il le connaissait bien, et j'ai même pu dire très bien. Il a reçu des révélations que ceux qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi n'ont pas reçues. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit les 2/3 du Nouveau Testament pour se révéler, pour révéler Christ à l'Église, aux chrétiens de la terre. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas nous traumatiser. La révélation, elle doit exister. Est-ce que ça fait partie de vos prières ? Seigneur, révèle-toi. Ou est-ce que vos prières, c'est béni Pépé, béni Tati, béni mon travail, béni mon patron, qu'il soit gentil. Seigneur, béni les uns, béni les autres, tu vois, j'ai mal au dos. C'est sûr qu'il faut prier pour les petits bobos. Mais est-ce que la priorité de notre recherche, Seigneur, révèle-toi. Ou vous le connaissez tel que ce n'est plus la peine. Moi, je pense que tous au milieu de nous, nous pouvons faire cette prière, révèle-toi. Je veux te connaître davantage. Jean était le disciple que Jésus, qui connaissait le mieux le Seigneur. Vous êtes d'accord ? Jean était le disciple que Jésus aimait. Il y avait une affinité et une communion à tel point que Jean a eu le privilège de poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Il a même dû entendre son cœur physique. Et pourtant, quand Jean reçoit une nouvelle révélation de Jésus sur l'île de Patmos, il est tétanisé. Ça prouve une chose, que la révélation, elle est progressive. Et c'est normal. Nous ne connaissons pas certaines choses. Jésus a dit à Pierre, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Ne vous mésestimez pas, ne vous sous-estimez pas. C'est normal de ne pas avoir tout compris. Mais quand même, certains chrétiens devraient être en 6e, en 3e et sont toujours au CEP. Au cours préparatoire. Ouais, ça vous fait rire. Mais c'est pas vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? Chrétien, toujours boudeur, toujours un sale caractère, etc. Je ne vais pas faire la liste, hélas, exacte de ce qui se passe alors que des chrétiens devraient avoir atteint une certaine maturité. Ils sont incapables et ils épuisent en plus. Ce n'est pas mon cas. Parce que moi, je fais attention. Mais ils épuisent des pasteurs. Moi, je connais un pasteur qui, tous les samedis, va visiter une femme qui est veuve. Il est épuisé. Comment le samedi peut-il recevoir la pensée de Dieu pour nourrir son église ? C'est impossible. C'est impossible. Je sais que c'est vrai. Donc, nous sommes là. Nous avons chanté « À tes pieds, je veux être assis ». Nous avons chanté dans un deuxième temps « Seigneur, tu vois, j'ai oublié. Est-ce qu'on n'a pas oublié des choses ? Oui. Vous allez entendre certaines choses, vous allez les entendre peut-être pour la première fois, vous allez peut-être les réentendre pour la énième fois, peut-être que vous les apprenez intellectuellement, peut-être que ça fait partie de la doctrine biblique que vous devez apprendre, peut-être que c'est de l'enseignement qui vous a fortifié. Mais mes frères et sœurs, quand vous lisez quand même le témoignage de l'apôtre Paul, il passe de la doctrine à l'expérience. Et souhaitons-nous que la parole de Dieu se transforme en expérience. Répondez au Seigneur, répondez pas haute voix, mais répondez-lui. Est-ce que vous voulez, est-ce que nous voulons que sa présence se manifeste dans ma vie, dans nos vies ? Il ne faut pas oublier qu'il nous sera toujours fait selon notre foi et qu'il nous sera toujours fait selon notre soif. Mais moi j'ai soif, monsieur Gou, mais j'ai soif. J'ai soif de bénédiction. Tout le monde a soif de bénédiction. Prenez un inconverti, un pécheur, quel qu'il soit, demandez-lui, est-ce que vous aimeriez avoir la paix ? Ouais, j'ai soif de paix. Est-ce que tout le monde a soif ? Bien sûr, les gens normaux, tous les gens normaux voudraient obtenir ceci ou cela. Et quand Jésus parle de cette fameuse soif, si quelqu'un a soif qu'il vienne, je pense qu'il fait allusion à la soif, pas de la bénédiction, à la soif de sa présence. D'ailleurs, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi, dit Jésus. Alors il y a 15 jours, j'ai été poussé, vraiment poussé, à prêcher sur la croix, avec cette question en introduction, la croix vous attire-t-elle toujours ? Et je vais poursuivre mon sujet. J'avais parlé, vous vous souvenez de quoi ? Sur la souffrance. Quand vous prenez le temps de regarder ce qui s'est passé au calvaire, quand vous lisez les évangiles, et même avant la croix, quand vous regardez ce que Jésus a vécu, vous voyez un Seigneur qui souffre. D'ailleurs, c'est dit plusieurs fois, il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. C'est très concis, mais c'est écrit. Et il y a beaucoup de choses sur la souffrance de Jésus, à tel point qu'il a même été appelé l'homme de douleur. D'accord ? Vous avez lu Ésaïe 53, vous avez lu les prophéties présentées par Jérémie ou par David, qui indiquent la souffrance de notre Sauveur, de notre Seigneur. Ça nous est rappelé chaque dimanche, c'est pour ça que je disais, mais il faut prendre la scène avec sérieux. Quand vous allez au calvaire, quand vous prenez le sang, qu'est-ce que vous pensez à quelque chose ? Est-ce que quand vous prenez, ce matin, vous avez pris le pain et le vin ? D'accord ? Vous l'avez pris le pain et le vin, les chrétiens ? Alors ne répondez pas, bien sûr, que personne ne se lève et dise à haute voix, Monsieur Go, oui. Comment t'as pris le pain et le vin ? À quoi tu pensais ? Ça a été facilité par le cantique quand j'ai vu tes mains, c'est clair. Ça a aidé peut-être beaucoup de chrétiens à regarder aux mains percées, aux pieds percés, à la souffrance physique et intérieure qu'on a du mal à comprendre. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, c'est écrit, il ne faut pas qu'on l'oublie ça. Il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça qu'il faut revenir au calvaire. Et si bien des victoires ne sont pas le partage de nos vies, si bien des chrétiens restent dans la défaite, si bien des chrétiens sont dans la désobéissance, je pourrais dire beaucoup de choses, vous comprenez ce que je veux dire. C'est parce qu'on n'est pas assez revenu au calvaire. Lisez l'apôtre Paul et vous verrez qu'il était crucifié avec Christ, ce qui indique qu'il était resté au calvaire. Alors c'est facile de le dire. Et c'est facile pour un pasteur de parler de certaines choses. C'est très 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 facile, très intellectuellement facile, très doctrinalement facile. Je pouvais faire une étude sur la doctrine de la rédemption, un sujet que j'aime par-dessus tout. La doctrine de la rédemption, vous la découvrez dans tous les Pentecôtes, vous avez les 12 vérités fondamentales de l'Église. Mais au-delà de cette doctrine, au-delà de cet enseignement, je crois qu'il faut qu'on revienne vraiment au calvaire. De toute façon, si nous voulons la victoire, cette semaine je lisais le livre d'Ézéchiel. C'est un livre un peu difficile, Ézéchiel. Mais j'ai compris. Dans le temple d'Ézéchiel, vous tapez sur internet, tape d'Ézéchiel, ça sera vite fait. L'autel, il est au milieu du temple, pile au milieu. L'autel, dans l'Ancien Testament, représente toujours la croix, puisque c'est là où étaient offerts les sacrifices. Dans le désert, le tabernacle, l'autel était à l'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand nous entrons dans le royaume de Dieu, la croix doit être au début. Mais quand nous entrons dans le royaume de Dieu et que nous sommes dans le royaume de Dieu, la croix, elle doit être au centre de notre vie. Toutes ces choses, on doit les redécouvrir. Moi, le premier, vous savez, je vous ai dit, vous me connaissez maintenant, ça fait 18 ans. Vous me connaissez un peu, non ? Non ? Et je me suis posé beaucoup de questions, je vous l'ai dit, parce qu'il y a des choses qui m'ont attristé, qui m'ont interrogé, je l'ai bien vécu, mais ça m'a quand même interpellé. En tant que pasteur, on est contraint de réfléchir sur l'état de l'Église en général. Et je me suis quand même posé tant et tant de questions par rapport au baptême du Saint-Esprit, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est une grâce, le baptême du Saint-Esprit. Mais vraiment, je crois que le Seigneur s'est révélé à mon cœur et m'a vraiment montré qu'au-delà du baptême du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit nous conduit, nous éclaire, nous dirige, nous rappelle les choses, etc. Il y a des choses qui ne se passent qu'au calvaire. Et c'est là l'explication. De toute façon, mes frères et sœurs, si nous avons vraiment l'Esprit de Dieu agissant en nous, parce qu'on peut l'attrister de telle sorte qu'il est devenu notre ennemi. C'est biblique ce que je vous dis ou j'exagère? Est-ce qu'il y a un texte dans la Bible où il est dit que l'Esprit de Dieu est devenu leur ennemi? Oui, vous le vérifierez, c'est dans Ésaïe 63 si je me trompe. Il est devenu leur ennemi à cause du péché. Alors moi, mon devoir, ma responsabilité, c'est de nous amener tous à une nouvelle révélation du calvaire. Oui, nous voyons un Seigneur qui souffre. C'est pour ça que Jésus lui-même a institué la Sainte Cène. Jésus a institué deux choses, le baptême et la Sainte Cène. Ces choses-là, elles sont solennelles dans l'Église. Et elles doivent toujours être remplies de respect. Alors sur la croix, moi hier, cette semaine entière en vérité, ça fait un moment, je voulais vous faire une prédication sur, je vais la faire, mais je sais que c'est du travail, mais je vais la faire sur la façon dont Simon de Cyrène a dû vivre cette affaire quand il rentrait des champs avec son petit sarclète sur l'épaule et qu'on lui a demandé de porter la croix derrière Jésus. Ce qu'il a dû vivre cet homme. C'est extraordinaire. Mais comme Dieu n'impose rien, comme Dieu ne force personne, cette histoire, elle est là pour peut-être nous amener à prier. Seigneur, aide-moi à revenir au calvaire. Force-moi un petit peu, même si ce n'est pas trop ta façon de faire. Aide-moi, dispose un cœur bien disposé. Vous connaissez ces textes de David qui veut retrouver la communion avec Dieu. Il a joué la comédie pendant un an et là maintenant, il a été pris sur le fait, il veut absolument retrouver la communion avec Dieu. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, la communion avec Dieu, là, ce matin. Qu'est-ce que ça représente dans votre cœur? Qu'est-ce que vous pourriez écrire à quelqu'un? Tiens, ce matin, notre pasteur nous a parlé de la communion avec Dieu. Je te fais part de mon ressenti. Je suis pas content de ma communion avec Dieu. Je suis peiné de mon impiété et je vais la retrouver. Dieu vous aidera. Et le Saint-Esprit, croyez-moi. Il vous amènera au calvaire, c'est sûr. Alors moi, je voudrais simplement, avant de faire un appel, vous parler de l'amour du Seigneur. Vous allez me dire, tu vas rien nous apprendre. T'as rien d'autre à nous partager? L'amour du Seigneur, mais monsieur Gau, c'est pour les pécheurs. C'est pour les gens qui sont loin de Dieu. Monsieur Gau, mais prêchez ça cet après-midi. Aux perdus qui viendront. Je ne suis pas sûr que la prédication de la croix, c'est pour les perdus. Que pour les perdus. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et on devrait continuellement être attiré par cet amour, surtout qu'on sait très bien que c'est un domaine dans lequel on défaille souvent. Vous n'avez jamais souffert d'être pauvre en amour? Quand j'entends, et je l'ai déjà entendu, ça m'a brisé le cœur. Monsieur Gau, vous nous demandez d'aimer nos ennemis? La Bible nous demande d'aimer nos ennemis? J'arrive tout juste à aimer ma femme. Je supporte tout juste mes gosses. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Vous avez de la chance. L'amour de Dieu, il faut en parler. Il faut que cet amour tout à nouveau nous presse. Paul disait, l'amour de Christ me presse. Ça veut dire, j'ai regardé, presser dans le grec, ça veut dire qu'il nous entoure tellement que c'est impossible de s'en échapper. On est prisonnier de cet amour. Je comprends pourquoi Paul est resté au calvaire. Et pourquoi il pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais juste avant, il y a un point virgule, et il disait, j'ai été crucifié avec Christ. À la croix, nous voyons l'amour de Dieu. Je ne sais pas, parce qu'on en voit des croix partout. On en voit dans les églises, il y en a. Il y a une petite là, une petite. sur le pupitre. Dans toutes les églises du monde, il y a des croix. Partout, il y a des croix. Dans les carrefours en France, partout. Qu'est-ce que cette croix représente pour toi ce matin, pour moi? Est-ce que ça représente la plus grande des souffrances? Ça, c'est sûr. On en a parlé il y a 15 jours, j'y reviens pas. Mais est-ce que ça représente pas non plus le plus grand amour jamais déversé sur la terre? Et cet amour, il est pour nous, mes frères et sœurs. Il est pour nous. Il n'y a pas que la souffrance et l'amour. Je n'aurai pas le temps de parler de la façon dont Christ s'est donné. Parce que quand vous voyez Christ crucifié sur la croix, vous voyez un Dieu qui s'est donné. Oui ou non? Et comment il s'est donné? Et si ces choses sur la souffrance, quand même, ce n'est pas une souffrance négative, c'est une souffrance qui libère, c'est une souffrance, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ce que je vous dis, ne l'interprétez pas d'une manière négative. Il faut voir derrière qu'il y a la victoire. La croix, c'est la victoire. À la croix, nous voyons un Dieu qui souffre, nous voyons un Seigneur qui aime, nous voyons un Seigneur qui se donne. Ça sera certainement l'objet d'une autre prédication si je l'ai toujours à cœur. Lorsque Jésus a exercé son ministère, il a fait des choses merveilleuses. Ce matin, ça nous a été rappelé. Il a multiplié le pain. Ça, les gens, ils en rient. Mais le Créateur du ciel et de la terre ne pouvait-il pas multiplier l'atome? Vous le croyez, ça, la multiplication des pains? Ou c'est une blague dans l'Évangile? Jésus a multiplié l'atome, le pain et les poissons. Est-ce que c'est bien? Eh oui. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? On pourrait prendre le temps quand il était sur la tempête. Vous avez déjà vu le film de Jésus? Il y en a un qui est pas mal fait où on voit cette petite barque là avec ses apôtres là complètement apeurés et Jésus qui dort à la poupe sur le coussin. Ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on voit? Seigneur, réveille-toi! On périt, réveille-toi, nous périssons. Et Jésus se réveille, tais-toi. Et la mer s'est tue. Tout ça, je pourrais résumer toutes ces choses, c'est intéressant de le faire. Mais tout ça est subordonné à son amour. Tout est lié à son amour. Tout ce qu'il a fait, vous le croyez mes frères et sœurs? Tout est lié à cet amour. Et si cet amour ne me presse plus, si je me suis fait piéger, parce que moi aussi je me suis fait piéger, vous comprenez bien que ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis épargné. Et je veux, et nous devrions dire, Seigneur, je veux revenir au calvaire. Je l'ai chanté, mais ça ne va pas être une histoire d'un rendez-vous de 2 heures le dimanche matin, ça va être un rendez-vous divin, hebdomadaire, continuel. Il aimait le Seigneur des Seigneurs. Il aimait. Il aimait, et pourtant il connaissait les gens parfaitement. Dites-moi, vous me le direz à la sortie. Dites-moi, mes frères et sœurs, nous avons aimé des gens. Oui ou non? Nous avons aimé des gens, vraiment aimé des gens. Et puis nous les avons connus mieux. Un peu mieux. Beaucoup mieux, très plus. Et nous avons été déçu. Oui ou non? Qui n'a pas été déçu par quelqu'un? Jésus, il connaissait tous les hommes. Il les connaît tous. Et il a continué à les aimer. On pourrait prendre comme ça plein de parallèles pour mettre en valeur, bien sûr, l'amour du Seigneur. Jésus n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Vous vous rendez compte? Il a décidé, c'est comme ça, il s'est humilié, il s'est fait pauvre. Bon, ça, c'est le choix qu'il a fait. Il s'est humilié et pourtant il a aimé le jeune homme riche qui venait. Nous, quand on est peut-être en difficulté financière, on peut avoir du mépris pour les riches. Et les pauvres peuvent juger les riches et vice-versa. Vous voyez ce que je veux dire? C'est écrit dans la Bible que le pauvre ne doit pas juger le riche, que le riche ne doit pas mépriser le pauvre. Jésus n'a jamais méprisé un riche. Vous vous rendez compte, lui, le saint, le véritable. Lorsque Marie-Madeleine s'est approchée, c'est des images quand même, cette prostituée, quand les gens ont dit, mais s'ils savaient de quelle espèce, vous voyez comment les pharisiens, ils étaient classe, et il y a cette femme qui le touche. Mais Jésus, il a béni cette femme. On pourrait citer plein de gens, il a béni les païens, il a béni les pharisiens, et pourtant, ce sont eux qui l'ont crucifié. Il aimait. Et mes frères et sœurs, ce n'est pas qu'il aimait au passé, c'est que Jésus vous aime. Il vous aime, il voudrait pouvoir faire quelque chose avec chacun de vous. Même vous qui n'allez pas bien, vous qui n'êtes pas bien du tout, il le sait. Et son regard n'est pas un regard de jugement. Si vous êtes son enfant, votre regard est un regard de tendresse. L'autre jour, j'ai parlé de la concision des écrits quand Pierre a renié Jésus. Est-ce qu'il les aimait, ce petit groupe-là de douze bonhommes comme vous et moi? Choisis les pécheurs, un péager. Il les aimait, les douze? Et pourtant, vous ne croyez pas que souvent il a dû être attristé, le Seigneur? Quand Jésus a été abandonné de tous les hommes, même des apôtres, que Jésus a été renié par celui qui avait dit « Mais oui, les autres, c'est normal, ils te renieront, mais moi, jamais, je suis prêt à mourir pour toi. » Vous vous rendez compte, c'est le reniement. En plus, le reniement, c'était grave. Parce que Jésus a dit, celui qui me reniera devant le Père, celui qui me reniera, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Et je peux vous dire, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais qu'il y en a un qui a dû profiter de cette aubaine pour triturer l'esprit de Pierre. Et il est dit que quand Pierre a renié Jésus, parce qu'il n'était pas loin, à côté du feu, il est juste dit, Jésus regarda Pierre. Trois mots qui en disent long sur l'amour de Jésus pour nous, même si nous l'avons renié. Vous avez dit, moi, je n'ai pas prononcé le verbe renier, tatati, tatata. Mais enfin, écoutez-moi, il y a certainement des choses sur lesquelles le Saint-Esprit est en train de nous montrer pour que nous nous corrigions et que nous revenions à cet amour. Parce que de toute façon, sans cet amour, sans lui, nous ne pourrons rien faire. L'œuvre de Dieu ne pourra pas se faire. Nous essaierons avec notre méthodologie, avec notre organisation, avec nos capacités, avec notre expérience, avec notre argent. On ne peut rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque Zorobabel et Zacharie étaient affligés à cause de ce qui se passait pour la reconstruction du temple, il leur a dit « ce ne sera pas par la force, ça ne sera pas par la puissance ». Ça sera par mon esprit. Et celui qui a commencé, c'est Jésus qui parle, c'est Dieu dans l'Ancien Testament, il l'achèvera. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il a commencé son œuvre au calvaire. Laissez-moi vous dire que quand l'Église sera enlevée, il aura achevé son œuvre. Mais est-ce qu'il peut la faire? Vu notre égoïsme, notre avarice, vu notre tiédeur, vu notre problème, et nous avons essayé, je ne dis pas que... si on est là, écoutez-moi, si on est là, je vais vous dire, je vais vous rassurer totalement. Si vous êtes là, pour moi, c'est la preuve que vous avez soif de Dieu. C'est sûr. Je ne dis pas que vous obéissez, que nous obéissons. Si nous sommes ici ce matin dans la maison du Seigneur, c'est qu'on a soif de Dieu, c'est sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on a soif de Dieu qu'on obéit à Dieu. Si nous sommes dans la maison du Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose que le Saint-Esprit va pouvoir faire ou refaire. Et il ne peut le faire que par le baptême du Saint-Esprit et que par la croix, en restant crucifié à la croix. Alors, bien sûr que nous sommes là, nous pouvons justifier nos faiblesses, nos manquements, nos péchés, notre avarice, etc. Il nous aime. Dieu vous aime. À la croix, vous voyez un Seigneur qui aime. Il vous aime. En ce moment, Dieu voit tous les fils de l'homme. Ça vous dépasse, ça. Est-ce que vous arrivez à comprendre que Dieu voit tous les fils de l'homme? C'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est écrit? Dieu regarde tous les fils de l'homme. Il nous connaît tous. Et il sait où nous en sommes. Et il pourrait dire à quelqu'un ce matin, d'une manière très 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 rapide, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Est-ce qu'il pourrait le dire ce matin, un chrétien? Oui, il pourrait le dire, oui. Peut-être à moi. Ah, « Donne-moi ton cœur. » C'est écrit dans la Bible, ça. « Donne-moi ton cœur, mon fils. Donne-moi ton cœur. » Parce que quand Dieu a le cœur de quelqu'un, et il a tout. Dieu ne dit pas « donne-moi ton argent ». Ce n'est pas parce que vous allez donner quelque chose à Dieu que vous lui appartenez. Mais quand votre cœur est à Dieu, vous lui appartenez entièrement. Peut-être que vous êtes angoissé. Vous savez, il y a des luttes et des combats. David a été angoissé. C'était un homme selon le cœur de Dieu. L'apôtre Paul, a-t-il eu des angoisses, l'apôtre Paul? Oui, l'apôtre Paul a eu des angoisses. Eh bien, ce n'était pas pour autant... qu'il avait abandonné, il était dans des combats. Et parce qu'il y a la désobéissance, c'est vrai, les manquements, la faiblesse, tout ça, ça s'explique. Mais il y a tout d'abord, à la croix, la victoire. Mes frères et sœurs, il y a la victoire. Et nous devons réapprendre à connaître le Seigneur. j'en suis sûr. Soyons en paix, mes frères et sœurs, soyons encouragés. Jésus a dit, vous savez, quand Jésus a dit, il aurait pu dire autrement. Croyez-moi, vu le contexte, parce que nous, on connaît les phrases par cœur, c'est devenu des slogans. Quand Jésus dit, je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. Je ne briserai pas le roseau cassé. C'est extraordinaire, pour vous et pour moi. Je ne sais pas si vous êtes en train de fumer. Ça veut dire qu'il n'y a aucune lumière, il y a juste une petite truc. Je ne sais pas si vous êtes en train d'être brisé. Est-ce que ça peut arriver qu'un chrétien soit brisé? Répondez-moi. Eh oui, ça arrive. Et le Seigneur le permet en plus. Pour nous approcher de lui en plus. Nous, on voit souvent les choses négatives, mais croyez-moi, Dieu peut faire concourir toutes choses au bien. Alors moi, je voudrais que nous réapprenions à connaître le Seigneur. Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire sur la croix, vraiment. Quelques paroles qu'il a prononcées. Vous savez, vous pourriez citer les paroles que Jésus a prononcées sur la croix? Il en a prononcé combien? 7. Une a été rappelée ce matin dans un don spirituel. Vous vous rappelez laquelle? Tout est accompli. Vous voyez que l'amour de Dieu sur la croix. Voyez quand il, je prends une parole, juste une, quand il est dans une souffrance indescriptible, qui sait qu'il y a à quelques mètres de lui sa mère Marie, avec qui à côté de lui l'apôtre. Je ne sais pas si vous vous représentez un instant ce que ça doit être pour une maman de voir son fils crucifié, même si elle savait que c'était le fils de Dieu, mais c'était sa maman quand même. Et Jésus, vous voyez, dans une souffrance qu'on ne pourra jamais exprimer, même le meilleur des pasteurs ne pourra jamais décrire la souffrance de Jésus, c'est impossible. Femme, voilà ton fils. Et fils, voilà ta mère. Nous, quand on souffre, on ne prend pas trop le temps de... J'ai pas le temps, j'en ai assez avec mes problèmes. Parce que cette souffrance, soyons honnêtes, vraiment honnêtes, si nous restons près de Christ, cette souffrance, cet amour merveilleux, et même quand il dit « j'ai soif », moi je soupçonne le Seigneur de ne pas présenter un besoin physique, physiologique. Je soupçonne le Seigneur de nous rappeler qu'il a soif de nous. Vous réfléchirez, j'en suis sûr. De toute façon, c'est tout à son honneur. Et toutes ces paroles dans la souffrance, toutes ces paroles nous parlent d'amour. C'est pour ça que Jésus a dit, une fois que j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il peut attirer tout le monde, un athée, un persécuteur, un pauvre, un riche, tous ceux qui le veulent bien sûr. Jésus forcera personne. Mais ce que je voulais, je vais arrêter là et je vais revenir à mon texte de Philippiens. Dans Philippiens, Paul, il exprime ce qu'il a eu, pas pour faire le malin, mais il explique qu'il y a plein de choses qu'on peut valoriser, qui ne servent à rien, en fin de compte. Si je vous disais que j'avais 3 doctorats en théologie, est-ce que ça vous intéresse? Hein? Vous ne le saviez pas? Moi non plus. Est-ce que ça serait important que votre pasteur, il ait une théologie, un doctorat en, je ne sais pas moi, en archéologie biblique. Mais ce serait bien, mais ça ne me gênerait pas de l'avoir. J'ai acheté un livre sur l'archéologie biblique. C'est pour ça que je dis ça, mais ce n'est pas ça qui est important. Paul, il exprime ce qu'il a été, et il exprime quelque chose que nous devrions vouloir dire, vouloir vivre. Je veux gagner Christ. Ah, monsieur Gault, ce matin on a entendu une prophétie qui disait que le salut ne se méritait pas, que le salut était un don. Hein? Et vous, vous dites qu'il faut gagner Christ? Bien sûr que le salut est un don gratuit. Bien sûr que le salut ne se mérite pas. Mais il y a une différence entre le salut et le désir profond de le connaître. Et là, il y a un prix à payer. D'ailleurs, il dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ, mon Seigneur. Il connaît Dieu et il veut apprendre certaines choses. Est-ce que nous voulons les apprendre? Alors, je pense sincèrement, si je fais des progrès également, que je peux vous apprendre doctrinalement et d'une manière très intellectuelle des choses bibliques. Mais je sais très bien que le seul moyen pour que nous les expérimentions, c'est d'être au calvaire, de revenir au calvaire, dire « Seigneur, ma vie, elle est à toi ». D'ailleurs, regardez la prière de l'apôtre Paul, il dit « Mais je veux renoncer à tout ». Est-ce qu'il était malheureux, Paul? Parce que le diable, souvent il y a le charnel, il y a l'humain, il y a l'intellectuel, tout ça. Mais n'oublions pas que le diable, laissez-moi vous dire qu'il va nous faire oublier certains textes de la Bible. Pour que nous restions dans notre médiocrité, dans notre désobéissance. Mais mes frères et sœurs, moi ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que nous aussi, nous pouvons avoir des révélations du Seigneur. Ce n'est pas réservé à Moïse, ce n'est pas réservé à Ésaïe, à Jérémie, à Ézéchiel, à Pierre, à Jean, à Jacques, à Paul. Dieu veut se révéler à tous ses enfants. Vous le croyez? Et pour cela, il faut vivre ce qu'on a chanté, « Conduis-moi au calvaire ». Ça vient du cœur. Personne ne peut obliger quelqu'un. Il n'y a que le pauvre Simon de Cyrène qui a été obligé de porter la croix. Mais je ne pense pas qu'il a dû le regretter. Alors moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on réponde à cette prédication. Sans bruit, dans le cœur, qu'on se recueille. Et je pense qu'il y a des moments précieux où le Saint-Esprit peut toucher quelqu'un, où la parole de Dieu peut atteindre un cœur. Ce matin, si vous avez écouté les dons spirituels, il y a quelqu'un parmi nous qui est perdu, qui est mort. Mort, c'est mort physique, spirituellement. Quand la Bible dit « vous êtes mort », ça ne veut pas dire physiquement ou psychiquement. Quand Dieu nous voit sans lui, on est mort. Si quelqu'un a besoin de guérison, vous savez, jeudi, j'ai prêché sur ces deux aveugles qui ont suivi Jésus. Vous vous rendez compte, ils l'ont suivi. Ils ont dû s'empêtrer les pieds plusieurs fois, j'en sais rien. Et ils l'ont suivi. Et Jésus leur a dit, que voulez-vous que je vous fasse? Bien sûr que cette histoire, elle fait sourire les gens. Elle fait sourire les gens. Même vous, peut-être vous dites, mais je la connais par cœur. Mais si Dieu vous disait ce matin, que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu serais capable de discerner ton besoin? Sérieusement, est-ce que tu es capable ce matin de dire oui, mon besoin, c'est de revenir au calvaire. Mon besoin, c'est d'aller demander pardon. Eh bien, de moi, Seigneur, j'arrive pas. Oui, ça peut arriver. J'arrive pas à pardonner, j'arrive plus, j'en ai marre. Et vous ne croyez pas qu'à la croix, Dieu va vous donner la force de pardonner? C'est pour ça que les chrétiens rétrogradent. Parce qu'ils ont abandonné la croix. La croix, je le répète, je le synthétise le plus simplement possible, c'est la victoire.